jeudi 13 juin 2013, le FRAC PACA vous convie à partir de 18h au vernissage de l'exposition monographique qu'il consacre à Yazid Oulab. Rencontre avec l'artiste au FRAC pendant l'accrochage des pièces de son expo.
Voilà, donc on est en face d'un texte sans titre, c'est Ouvrier, tiré de Les Illuminations de Rimbaud. Et donc là, je l'ai traité avec un matériau, donc un médium, qui est le fil barbelé. Ce texte commence par « Oh, cette matinée chaude de février, le sud inopportun vint relever nos souvenirs d'indigènes absurdes, notre jeune misère. » Et Henrika avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns. Il a dû être porté au siècle dernier. Un bonnet à rubans et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un deuil. Etc, etc, etc.
Une pièce de l'exposition que le FRAC te consacre à partir du 13 juin à 18h pour ce vernissage. Peut-être avant de détailler un peu les pièces qui vont faire partie de cette exposition, revenir quelques instants sur ton parcours. Un parcours qui a commencé à Alger, à l'École des Beaux-Arts. Peut-être quelques mots sur des rencontres, des moments charnières qui t'ont ouvert les yeux sur la pratique de ton métier d'artiste. Et par exemple, en premier, la rencontre avec ton oncle, qui n'est autre que Kateb Yassine, je crois.
Absolument. Donc, tout a commencé justement avec cette rencontre.
Yazid Oulab.
Puisque ma vie était déjà destinée à être normalement, suivre le parcours de mon père, qui était un ouvrier, agriculteur, mécanicien. Et voilà. Un été, mon père et ma mère se sont séparés, donc chaque été, je passais donc quelques jours chez ma mère à Alger. Et donc cet été-là, elle me dit, tiens, ton oncle est installé en ce moment à Alger, viens, on va lui rendre visite. Donc je suis arrivé, donc j'avais des souvenirs très très lointains de mon oncle parce que j'étais très très jeune et lui il était à l'étranger. Donc
on rappelle que Kateb Yassine est un écrivain, des plus grands écrivains de l'Algérie contemporaine.
Dramaturge, écrivain, homme de théâtre, poète. Et du coup j'étais donc à la rencontre de cet homme extraordinaire, très humble, très 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 simple. Je suis arrivé donc chez ma mère pour 15 jours et finalement c'était la moitié de ma vie. Et c'est là où j'ai découvert qu'on pouvait apprendre le dessin, l'art, dans des écoles. J'avais 22 ans et justement le fil barbelé montre un peu le passage. Donc j'étais dans un enclos avec les vaches et les brebis et maintenant j'ai fait un saut pour aller vers la poésie.
En fait, tu utilises assez souvent, dans ton travail, des éléments qui signifient ou qui évoquent une certaine violence. Je pense à ces clous qui sont en face de nous, qui ont sans doute bien d'autres sens d'ailleurs dans ton esprit que ceux de clouer ou de crucifier ou de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'une certaine violence. On voit souvent dans ton travail des cibles, on y voit des couteaux, on y voit des clous, on y voit du barbelé, on y voit des colonnes de stylites, ces hommes qui autrefois se laissaient mourir, exposés au soleil et au grand air. Donc comment est-ce que ton travail incorpore de manière poétique quelque chose qui quand même relève un peu de la violence?
Je dirais même que le nouveau-né, quand il vient au monde, il vient avec une violence.
Yazid Oulab.
Et donc, c'est juste pour... Mais ça ne justifie pas tout. Et après, moi, il fallait que je trouve un impact, un ancrage. Je suis venu d'Algérie avec une culture très très forte, qui est une culture de poésie et d'écriture, et de théâtre et de musique. Il fallait que je trouve une forme, un outil, une forme pour justement me rattacher, donc me relier, la relation qui va rattacher ma culture à une culture universelle. Par intuition, je suis tombé sur l'écriture cunéiforme, qui a donné, elle, le nom au clou. Puisque en arabe, on dit « al-khat al-mismari », donc vraiment l'écriture des clous. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de prendre un outil qui sert au travail, qui sert à relier et en même temps qui a été nommé par l'écriture. Je n'ai pas pris le clou autant que objet agressif. Il est dynamique, puisque toute l'histoire de l'art, elle est accrochée à un trou. C'est un lapsus, mais elle est accrochée à un clou plutôt qu'un trou. Puisque j'ai de la chance d'avoir deux grands-mères extraordinaires, l'une qui m'a élevé, qui est la grand-mère paternelle, où j'étais bercé toute ma vie dans des bras de tatouage. Donc c'était ma grotte, déjà, de Lascaux. Et du côté de ma grand-mère, donc, maternelle, c'était le dessin. Et c'était la symbolique qu'elle voulait exprimer à travers ses dessins. Donc, elle prenait un bâton de craie, elle commence à dessiner tout ce qui lui passait par la tête pour conjurer le sort ou lire dans... Il y en a qui lisent dans le marc de café, elle lit en dessinant et en essayant d'évoquer des histoires. Voilà comment j'ai grandi et forcément ça m'a nourri. Et pour moi, c'est pas agressif. Quand je prends le fil barbelé, quand j'ai décidé vraiment de travailler avec ce médium, j'étais à l'atelier Calder en 2009, où je faisais une résidence. Et il y a beaucoup de brocantes dans le coin. Et un jour, je suis tombé chez un brocanteur sur une bobine de fil de fer barbelé extraordinaire. On dirait qu'il y avait un noyau. Et autour de ce noyau, il y a des myriades comme ça d'étincelles qui tournaient. Et les étincelles, c'était justement ces pics de fil de fer barbelé. Et donc, j'ai retourné à l'atelier Calder et cette image m'est restée. Et après, tout de suite, je me suis dit, tiens, Calder a travaillé le fil de fer et je vais lui rendre... je vais faire un clin d'œil donc à Calder avec ce fil de fer barbelé. La première chose que j'ai faite avec ce fil barbelé, ce sont deux mains comme ça, une main qui porte et une main qui protège. Et pour moi, c'était vraiment l'énergie potentielle que peut résider dans les mains d'un créateur. Voilà. C'est à partir de là où je voulais utiliser le fil barbelé comme une énergie.
Je voudrais que tu me parles un petit peu du rapport entre ton travail et la pensée soufie.
Oui, alors, donc la pensée, les soufis, donc, ce sont les mystiques musulmans, et leur enseignement passe par la poésie. Et là, j'avais fréquenté mon oncle un certain temps, donc, et il m'a fait savoir que la plus belle poésie, c'est la poésie qui a un rapport très fort avec l'esprit. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser donc aux histoires soufis. D'ailleurs, j'ai pratiqué, je pratique jusqu'à maintenant. la méditation, parce que l'islam qui m'a été transmis, c'était un islam très paternel, très doux. Et petit à petit, ce que les musulmans ont fait de l'islam, c'est devenu un islam très, très dangereux. C'est même pas dangereux, c'était un islam d'obscurantisme, alors que et de violence, alors que le mot islam, déjà, ça veut dire, il vient de la mot paix. Comment on peut revendiquer appartenir d'une pensée de paix et on la traduit en violence? C'est une ambiguïté que jusqu'à présent je ne comprends pas. Et donc, et les soufis, cette violence, ce n'est pas la violence vis-à-vis de l'autre, c'est une violence, comme on dit, très métaphysique, puisque
mystique,
c'est l'âme et l'esprit qui sont incarnés dans un corps, et puis ce corps, il a des limites, et comment justement essayer de se débarrasser de ce corps pour aller, puisque nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un esprit et nous sommes une énergie. En fait, c'est ça, c'est même pas une violence, je dis une violence, mais c'est pour juste traduire cette image. Et donc, et sauf la poésie peut faire évader, peut laisser la porte, peut pousser la porte à la pensée d'aller chercher plus loin. Voilà.
Yacine, tu l'évoquais tout à l'heure, ton travail est au confluent d'une pensée et d'une pratique, d'un faire, de quelque chose de très manuel, de très ouvrier. Et en même temps, ces pièces qu'on a en face de nous, ces clous, sans doute ils sont issus de ton atelier, mais ils sont aussi issus d'une réalisation qui, je crois, a été entreprise en Chine.
C'est pas uniquement qu'en Chine, donc ils ont transité parce qu'il y a un savoir-faire. Voilà, donc il y a un savoir-faire ancestral, et moi je voulais justement aller chercher ce savoir-faire. J'ai suivi donc la fabrication de ces objets, parce que le travail, il est vraiment ancestral. Comment j'ai grandi, comme le silex, par exemple, il est vraiment fait à la manière traditionnelle. C'est comme la dinanderie, où j'ai grandi, où on voyait comment donner la forme au cuivre pour faire les secoupes, les tasses et les, et donc, et je voulais aller à ce geste-là qui m'intéressait. Voilà, donc je disais tout simplement, c'est que j'ai filmé ces ouvriers qui ont le métier, et d'ailleurs dans l'exposition je vais montrer quelques gestes de comment ces clous sont là. Donc, mais ils sont passés quand même par des mains, par tout un travail d'énergie et tout ça. Comme un clou, normalement, il n'a jamais été dans une salle d'exposition, dans un bâtiment, on n'a jamais glorifié les clous. Alors que dans la Mésopotamie, dans la société babylonienne, avant de construire un temple, on mettait des clous, on appelle ça les clous de fondation, les clous de la fraternité. Ce sont des espèces de cônes qui ressemblent à des clous. Et il y a des écritures dessus, de l'écriture cunéiforme. Donc on les plantait comme des fondations pour pouvoir après s'élever. Et je me suis dit, le clou, il a déjà servi à l'édifice d'un temple. Et le temple, qu'il soit en pierre ou qu'il soit en chair, il lui faut un clou.
On a parlé de la pensée soufie, on se rend compte qu'il y a une dimension de méditation dans ton travail, de nourriture spirituelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens caché, qu'il y a un sens ésotérique de ton travail?
Ouais, je m'intéresse à la poésie soufie, j'ai été même m'en rattacher à une voix soufie, la Tariqa Al-Alawiya, qui est son maître, il vit à Grasse, en France et en Algérie, il a des disciples partout, parce que je voulais vraiment vivre l'expérience, parce qu'on ne peut pas juste lire les livres, tout ça, mais il fallait vraiment vivre cette expérience. J'ai trouvé vraiment qu'il y a une portée d'amour et une portée de connaissances et de savoir et d'énergie extraordinaire. On éduque le corps et l'esprit par le son, et le son traverse des mots.
Et le souffle.
Et le souffle. Et donc c'est à partir de là où l'être puisse se connecter avec ses origines spirituelles. Tout ça m'intéresse parce que quand on fait de la création, donc on va aller chercher d'où jaillit cette création, d'où jaillit la pensée. Donc toujours à l'affût comme un chercheur de trésors. Notre culture, c'est une culture de descente. Voilà. Et donc c'est une culture dynamique. On n'a qu'à voir par exemple tous les fêtes religieuses musulmanes, elles ne sont jamais fixées à une date. Elles bougent. Et donc et le clou, il est aussi un mouvement. Et je l'ai suspendu, moi, au départ, je l'ai suspendu pour évoquer cette idée de descente comme un fil à plomb, comme un fil à plomb pour construire. Et après, il y a le clou gigantesque suspendu devient la colonne du stylite qui part en point de fuite vers le point de tout commencement, puisque tout commencement commence par un point, donc commence par la pointe. Et donc, j'ai essayé dans mon travail d'aller toujours chercher le début, la source. Comme le silex, par exemple, avec il y a à la fois d'un côté silex et d'un côté il y a l'écriture cunéiforme. Je voulais rassembler les deux gestes de l'humanité, qui est le premier outil du travail et même la première écriture. Et le miroir, justement, là où on va maintenant présenter cet objet, que ce soit dehors, que ce soit dedans, dans une architecture, l'architecture va refléter dedans. Il est à l'origine de cela.
Peut-être quelques mots sur les autres pièces qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition.
En premier étage, il va y avoir une tombe en inox premier miroir. C'est la dernière demeure. Hein, donc. Et je voulais qu'elle soit aussi en miroir, c'est parce que tout le monde va se voir dedans. Mais elle a une particularité, c'est qu'il y a trois registres. Elle est constituée de trois livres. Pour moi, le prophète Mahomet, il a dit « mourez avant de mourir ». Ça veut dire qu'il faut mourir à l'intérieur. Et quand on meurt à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut faire abstraction de tout ce qui est à l'extérieur, avec tous les parasites qu'il y a. Plongez en vous-même, vous allez voir la dimension que vous avez, cette énergie qui est de la création, puisque nous sommes une étincelle, nous sommes un son parmi ce Big Bang. Et je me suis dit, donc, à la fin de la vie d'un homme, donc, il va partir avec un potentiel, et donc il devient une graine. Et cette graine, normalement, quand on enterre une graine, elle pousse. C'est le symbole de cette tombe qui est tiré des tombes saadiennes au Maroc. Et là, nous avons une série de dessins sur justement les stylites qui vivaient au Xe siècle, perchés sur leur socle. Et je me suis dit, s'ils sont dans la ville, ils vont être perchés où ? Et donc, du coup, c'est les ouvriers qui sont sur les grues. Donc, pour moi, ce sont les stylites. Ce sont justement ces personnes qui, au moment de leur détente ou le moment de qui sont assis sur perchés comme ça, et ils méditent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller chercher l'horizon qui a été barré par le rythme de l'architecture. Donc on n'a plus cet horizon, l'œil ne porte plus loin, il est rythmé par la cadence, la danse, la cadence, le rythme des toits de maison.
Mourir en soi-même, c'est quelque chose qui fait immédiatement penser à l'initiation. L'initiation, c'est la découverte d'un savoir, d'une connaissance, une découverte qui passe aussi par la transmission. De l'importance de la transmission, pour toi, d'un savoir, d'une connaissance ou d'une pratique.
Et le but, c'est ça. C'est quand tout à l'heure je disais, il faut toujours vider son sac pour le remplir. Parce que s'il est plein, c'est fini. Il n'y a plus de place pour autre chose. Et c'est pour ça que la petite mort, comme on dit, sert à vider son sac pour laisser, pour remplacer, comme on dit dans le langage contemporain, il faut défragmenter son disque dur. Voilà, ou le vider.
Et cette transmission, c'est aussi la transmission du travail d'artiste qui est le tien. Comment est-ce que tu pratiques cette transmission concrètement ? Tu aurais envie d'enseigner, par exemple ?
Ah, j'ai toujours envie de partager. L'enseignement, pour moi, c'est une expérience formidable. J'aimerais bien, peut-être, un jour, j'aurai peut-être la chance de, de partager ce que je sais, ou mon savoir-faire et mon expérience à des jeunes créateurs, parce que c'est important, parce que eux, ce sont justement une énergie nouvelle. La transmission se fait en essayant d'avoir une culture forte, mais de la dépouiller, qu'elle soit universelle. On n'est pas là pour dire ma culture est une culture juste ou une culture propre. Non, c'est une culture qui s'inscrit dans l'universalité. Donc si elle est riche, il faut l'appauvrir, et si elle est pauvre, il faut l'enrichir. Qu'il y ait un équilibre et pour qu'elle puisse donner du sens.
Merci Yazidou Lab. Je rappelle que cette exposition monographique qui était consacrée commence le jeudi 13 juin à 18h par un vernissage dans ce frac PACA dans lequel nous sommes en ce moment en plein accrochage, ça s'entend peut-être autour de nous. Et je te laisse pour terminer cet accrochage qui est toujours un moment un peu délicat pour un artiste. Merci beaucoup Yazid.
À très bientôt.